Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 4 septembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezelo. Pour commencer, les titres. En RDC, le tribunal militaire qui juge près de 50 personnes poursuivies pour la présumée tentative de coup d'État de mai dernier rendra son verdict le 13 septembre. Au Nigeria, plus de 80 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du pays. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été touché hier à une jambe par un tir de la police à une vingtaine de kilomètres de Kampala. Et dans notre partie magazine, nous reviendrons sur la mort d'au moins 129 personnes tuées en RDC dans une tentative d'évasion dans la plus grande prison du pays située à Kinshasa.
Cette fois-ci, nous veillons à ce que les résultats de cette enquête soient connus et que les responsables de ce carnage, cette boucherie ou ces auteurs de l'évasion qui a échoué soient traduits tous devant la justice.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En RDC, le tribunal militaire qui juge près de 50 personnes poursuivies pour la présumée tentative de coup d'État de mai dernier doit rendre son verdict le 13 septembre. Le parquet requiert la peine de mort pour tous les prévenus qui plaident non coupables. Le point avec Eddie Sango.
Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa a annoncé qu'il va rendre son jugement le 13 septembre, selon Maître Kines Chiyamba, avocat de Marcel Malanga, un des principaux accusés. Les plaidoiries des avocats des 51 prévenus sont terminées. Ils ont tous plaidé non coupables et appelé à l'acquittement de leurs clients. Le tribunal siège depuis le 7 juin dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo, où sont incarcérés tous les prévenus. Ils sont jugés pour avoir investi au matin du 29 mai les palais de la Nation, bâtiment abritant les bureaux du président Félix Tshisekedi. Leur leader, Christian Malanga, accompagné d'une dizaine d'hommes en armes et en treillis, avait déclaré ce jour-là sur une vidéo postée au moment des faits sur les réseaux sociaux qu'il avait mis fin au régime du président Tshisekedi. Il avait été tué par la suite par les forces de sécurité. Avec le groupe, Malanga avait avant cela attaqué les domiciles du ministre sortant de l'économie, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale. Le 27 août, le ministère public a requis la peine de mort contre tous les prévenus, à l'exception d'un seul, Alain Tikimo, un homme de 50 ans atteint des troubles psychologiques.
Au Nigeria, plus de 80 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du pays. Les autorités locales accusent le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Jean-Roger Billon.
Environ 150 terroristes présumés de Boko Haram, sur plus de 50 motos armées de fusils et de grenades, ont attaqué le village de Mafa dimanche, aux environs de 16 heures, a indiqué le porte-parole de la police de l'état de Yobe. Il a ajouté que l'attaque dans ce village était apparemment une mesure de représailles après l'assassinat de deux terroristes présumés de Boko Haram par des milices locales. Les résidents ont fait savoir que le bilan pourrait être encore plus élevé, des villageois étant toujours portés disparus et probablement morts après que les terroristes les ont pourchassés dans la brousse. Un responsable militaire, membre du commandement de l'armée dans la région, a déclaré lundi soir que la route menant au village de Mafa avait été piégée en plusieurs endroits avec des explosifs que les troupes ont réussi à désamorcer.
En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été touché hier à une jambe par un tir de la police à Bulindo, à une vingtaine de kilomètres de Kampala. C'est ce qui ressort d'un message posté sur son compte officiel X. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Bobi Wine conscient, avec un impact ensanglanté sur le tibia gauche, en train d'être évacué par des partisans qui le soutiennent sur les épaules. Les circonstances précises de l'incident ne sont pas précisées. Ancien chanteur Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulani, incarne l'opposition au régime du président Yoweri Museveni qui dirige l'Ouganda depuis 1986. À la tête de son parti, la plateforme d'unité nationale, il était le principal rival de Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021. Le chef de l'État, aujourd'hui âgé de 79 ans, a été réélu pour un sixième mandat avec 58% des voix, selon les résultats officiels, devant Bobi Wine, 35%, qui avait dénoncé une mascarade. Bobby Wine a été arrêté ou assigné à résidence à de multiples reprises ces dernières années et les rassemblements de ses partisans souvent dispersés, parfois violemment. Un documentaire intitulé Bobby Wine, le président du peuple, racontant sa campagne de la présidentielle de 2021, a été nommé aux Oscars en février.
L'instance électorale camerounaise ELECAM a annoncé mardi l'inscription de 755 085 nouveaux votants sur les listes électorales en 2024, dont la perspective notamment de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Selon l'organisation, au 31 août, date de clôture du recensement, plus de 8 millions de Camerounais figurent sur les listes électorales. Parmi eux, 755 085 nouveaux inscrits, dont 64,88% de jeunes. Un registre en hausse pour ce pays de 30 millions d'habitants qui devra toutefois faire l'objet d'un toilettage, précise ELECAM. Depuis le début de l'année 2024, l'opposition et le pouvoir ont mené des campagnes actives pour pousser les électeurs à s'inscrire. Nombre d'acteurs de l'opposition ont déjà annoncé leur volonté de prendre part au scrutin présidentiel. En Tunisie, la principale centrale syndicale, l'UGTT, dénonce une violation dangereuse de la loi après l'exclusion de trois candidats à la présidentielle du 6 octobre. Malgré leur réintégration dans la course la semaine passée par le tribunal administratif, l'instance électorale ICIE a annoncé hier avoir écarté les trois concurrents considérés comme les plus sérieux pour le président Kais Saied, candidat à sa propre succession. Il s'agit d'Abdelatif Mekki, ancien dirigeant du mouvement islamo-conservateur ENADA, de Monder Zenaidi, ancien ministre du régime Ben Ali, et d'Imed Daimi, conseiller de l'ex-président Moncef Marzouki, également proche d'ENADA.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti qu'il ne céderait pas aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages à Gaza, affirmant vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas au 11e mois de la guerre. De son côté, Washington continue de plaider pour finaliser l'accord de cessez-le-feu. Le point avec Dili Diko.
Je ne céderai pas aux pressions, a martelé Benjamin Netanyahou. Personne n'est plus engagé que moi sur la libération des otages. Nous devons exercer une pression maximale sur le Hamas qui doit faire des concessions, selon lui. L'annonce dimanche par l'armée israélienne de la découverte dans un tunnel de Gaza de 6 otages tués, selon elle, à bout portant par le Hamas, a accentué la pression sur Benjamin Netanyahou et amplifié la mobilisation en Israël. Des manifestations ont eu lieu à Tel Aviv et Jérusalem pour réclamer un accord pour la libération des otages retenus à Gaza. Après avoir demandé pardon pour ne pas avoir ramené en vie les 6 otages retrouvés morts, M. Netanyahou a juré de faire payer un prix très fort au Hamas. Les États-Unis ont appelé mardi à faire preuve d'urgence et de flexibilité pour finaliser un accord de trêve à Gaza, s'engageant à poursuivre leurs efforts. Il reste des dizaines d'otages à Gaza qui attendent un accord qui les ramènera chez eux. Il est temps de finaliser cet accord, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Pendant ce temps, l'offensive israélienne ne connaît pas de répit à Gaza et l'armée poursuit parallèlement pour le 7e jour consécutif son opération dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Donald Trump va de nouveau plaider non coupable dans le cadre des poursuites fédérales pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection de 2020, selon un document déposé mardi par les avocats de l'ex-président américain. Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, qui a renoncé à comparaître lors de l'audience jeudi devant la juge fédérale Tania Chutkan, chargée du dossier, a donc donné instruction à ses avocats de déclarer officiellement qu'il plaidait non coupable. Donald Trump reste donc inculpé de complot contre les institutions américaines et d'atteinte au droit de vote des électeurs pour ses pressions sur les autorités locales de plusieurs États clés afin d'invalider les résultats officiels du scrutin remporté par le démocrate Joe Biden. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
Dans le cadre de sa politique pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, la CEDEAO met en œuvre un programme de bourse en faveur des femmes. Ce programme aidera notamment à acquérir l'expertise nécessaire pour occuper un emploi rémunéré ou pour créer et gérer leurs propres installations d'énergie renouvelable et gérer les technologies d'énergie propre. Après 17 ans de négociations et de démarches, les Comores ont adhéré mercredi à l'Organisation mondiale du commerce en devenant le 165e membre. L'archipel, dont les exportations reposent principalement sur la vanille, les huiles essentielles ou encore le clou de girofle, rêve d'attirer les investisseurs étrangers et se voir ouvrir les portes de nouveaux marchés. Ici aux États-Unis, l'activité manufacturière a rebondi légèrement, moins qu'attendu en août, tandis que les pressions sur les prix ont rebondi de manière inattendue, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management, publiée mardi. L'emploi dans les usines a poursuivi son repli, mais à un rythme plus faible, à 46,0 en août, après 43,4 en juillet.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Début ce mercredi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, les 48 sélections participantes réparties en 12 groupes de 4 équipes vont s'affronter de septembre à novembre 2024. Il est prévu 2 journées couplées lors de chacune des 3 fenêtres FIFA prévues cette période. Seuls les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. 4 matchs au programme ce mercredi. Les Comores font face à la Gambie dans le groupe A. Dans le groupe C, la Libye reçoit le Rwanda. Et dans le groupe G, la Tanzanie fait face à l'Éthiopie. Et enfin, dans le groupe I, le Soudan reçoit le Niger.
À présent, des nouvelles des Jeux paralympiques.
Entrée en lice ratée aux 100 mètres hier pour la double médaille d'or des Jeux de la francophonie. L'athlète burkinabé Rainatou Mone a fini la course au 7e rang de sa série. Temps mis 13 secondes 86, insuffisant car seuls les 4 premières de chaque série se qualifient pour les demi-finales. En cécifoot, le Maroc, seul représentant africain dans la discipline, s'est incliné hier face à la Colombie 0-1. Médaille d'or par contre au 1500 mètres T11 dame avec la victoire de l'Éthiopienne Yayesh Gate Tesfaye. La médaille de bronze est revenue à la Sud-Africaine Lausanne Kotzi. Au 100 mètres T34 homme, le Tunisien Walid Kitla a enlevé l'argent.
Football féminin avec le mondial des moins de 20 ans qui se joue en Colombie.
Le Nigeria refait surface ce mercredi après sa victoire d'entrée 1-0 devant la Corée du Sud. Le Maroc qui a perdu 0-2 face au Paraguay pour son premier match joue face aux États-Unis toujours ce mercredi. Pour notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, la mission s'annonce difficile pour les Lions de l'Atlas.
Les prochains adversaires du Maroc et non des moindres sont les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi, et surtout l'Espagne, champion du monde. Donc ce sera une mission presque impossible pour les joueuses drivées pendant cette compétition par Jorge Linda, qui aura le privilège de retrouver son pays d'origine lors d'une confrontation fratricide. Mais ce qui est certain, c'est que ces joueuses sont en apprentissage, et il ne faudra pas les blâmer si elles retournent fanées au pays, parce que le Maroc est en train d'énormément œuvrer pour le développement du football féminin, et ça devrait porter ses fruits très prochainement.
Amin Birouk, consultant sportif.
Victor Osimhen et Naples ouvrent les négociations pour un prêt à Galatasaray.
L'attaquant international nigérian semble enfin trouver un moyen de quitter Naples en entamant des négociations pour un prêt avec le club turc de Galatasaray. Victor Osimhen, qui avait été annoncé au Paris Saint-Germain, à Chelsea et au club saoudien d'Al Ahly, ces dernières semaines a vu la fenêtre de transfert des plus grands championnats européens se refermer sans qu'aucun accord n'ait été trouvé pour lui. La fenêtre de transfert du championnat turc ne se refermera pas avant le 13 septembre et Galatasaray a besoin d'un attaquant central après la blessure de Mauro Icardi. L'attaquant nigérien qui a atterri à Istanbul hier matin pour des discussions a marqué 26 buts lorsque Naples a remporté la Serie A en 2023. Osimhen ne s'est pas entraîné avec Naples, qu'il avait déjà remplacé en recrutant le Belge de Chelsea, Romelu Lukaku.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Roselyne Munenzero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Chine et de nombreux pays se retrouvent ce mercredi pour le 9e forum sur la coopération sino-africaine. Sur les enjeux de cette grande messe, Jean-Roger Billon, adjoint à Paris en France, CAG Sanoussi, expert en intelligence négociationnelle.
Oui, je pense qu'il faut le voir sous deux angles importants. Il y a l'ancrage sur le continent, mais bien avant l'ancrage, ce grand sommet a un enjeu hautement diplomatique. C'est l'extension ou l'affirmation de la diplomatie chinoise. Et aujourd'hui, la diplomatie chinoise s'affirme, se définit aujourd'hui comme une diplomatie expansionniste et d'adhésion, à côté où nous avons des diplomaties de type occidental qui sont aujourd'hui dans une forme de diplomatie de repositionnement, ou je dirais aussi de la deuxième lose. Donc c'est le premier enjeu important pour la Chine, de s'affirmer sa présence diplomatique. Le deuxième, dans son positionnement sur le continent africain, dans son enracinement, c'est le volet économique. Et donc la Chine investit massivement en Afrique. Et on le dira, ce n'est pas forcément un investissement win-win. C'est un investissement où les Africains ont leur intérêt, mais la Chine a beaucoup plus d'intérêt. Et ça permet à la Chine donc de garder sa position de puissance économique mondiale. Et c'est un enjeu important pour la Chine de continuer à préserver ses relations.
Alors, si l'on en croit les derniers chiffres, Pékin est devenu donc le principal bailleur de fonds de l'Afrique. Comment capitaliser ces investissements vers un développement inclusif en Afrique? Comment ça peut toucher les populations, pour être plus concret?
Je pense qu'il y a une évolution qui est en cours. Et c'est pourquoi je disais que nous ne sommes pas dans un rapport win-win. Bien sûr, les pays africains ont leur intérêt, mais il y a une nécessité de remuscler également ce partenariat dans le suivi. Et des fois, nous avons des territoires qui sont totalement envahis, c'est le mot qu'on peut dire, où il y a une prédominance. Et nous avons aussi des financements qui sont toxiques dans certains pays où les pays n'arrivent pas à suivre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de régulation. L'intérêt des pays africains, c'est des projets structurants. Et les projets structurants sont synonymes de développement. Mais en même temps, c'est que nous avons ces prêts qui sont des fois des prêts un peu nocifs, puisque ça vient puiser, je dirais, l'âme de beaucoup de pays en termes de ressources. C'est cet équilibre qu'il faut réussir à trouver, peut-être avec un organisme panafricain qui permet donc d'avoir une démarche éthique en termes d'évaluation et de suivi de ces investissements, parce qu'autrement, nous allons assister à une forme de colonisation et qui ne dit pas son nom, mais qui est une colonisation scientifique avec des moyens légaux, et ce sera encore plus difficile de s'en départir.
Alors, vous avez parlé de l'institution BRICS. Est-ce que cette banque peut jouer ce rôle que vous appelez de tous vos voeux?
Absolument pas. Parce que cette banque est une banque qui sera en partie sous domination aussi chinoise, puisque c'est un des géants de cette dynamique. Je pense qu'il faut que ce soit une initiative panafricaine, où il y a des fils et filles du pays qui ont l'intérêt général chevillé au corps, qui suivent, non pas pour que la Chine ne gagne pas sa part, mais pour que l'Afrique gagne entièrement sa part, et que dans la mise en œuvre des projets, il y a certaines réalités que nous connaissons par pays, où on se dit que c'est bien la coopération, mais dans le fonctionnement quotidien, il y a un certain nombre d'améliorations nécessaires. Et si on arrive à avoir une essence panafricaine qui est éthique, qui n'est pas là pour chasser les uns les autres, mais faire en sorte que nous puissions être dans une position, je dis, d'addition et de multiplication, pour que chacun puisse avoir la part qui lui revient. Non.
CAG Sanoussi, expert en intelligence négociationnelle. En République démocratique du Congo, au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle, dans une tentative d'évasion au contour encore flou, survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison du pays située à Kinshasa. Le gouvernement a revu son bilan à la hausse après l'annonce hier de 2 morts. Eddy Sango, adjoint à Kinshasa, le président de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDHLC, Jonas Tiombela.
C'est un carnage, une boucherie qui se passait dans cette tunnel-là. Voilà pourquoi, au niveau de la nouvelle société civile congolaise et du réseau de défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption en RDC, nous avons estimé qu'une enquête indépendante devra être ouverte. Cette enquête, on devrait y associer des acteurs ou des défenseurs des droits de l'homme. Compte tenu du fait que les enquêtes sont toujours annoncées dans notre pays et qu'on finisse, on ne sait jamais donner les résultats à la communauté. Cette fois-ci, nous veillons à ce que les résultats de cette enquête soient connus et que les responsables de ce carnage, de cette boucherie ou ces auteurs de l'évasion qui a échoué soient traduits tous devant la justice. Et cette contradiction qui est entre les membres du gouvernement et le magistrat magistrat doit être clarifié par cette commission d'enquête. Et de cette manière que nous pourrions résoudre cette question de la sécurité des détenus et leurs conditions de vie en prison.
Vous parlez d'une contradiction entre les magistrats et les membres du gouvernement. Quelle est cette contradiction?
Mais le magistrat dit que le gouvernement ne les a pas mis dans des conditions du travail. En même temps, le gouvernement dit que nous sommes en train de tenter de désengorger les prisons. Le soir, le magistrat le remplit encore. C'est devenu un jeu de ping-pong dans un gouvernement où des choses comme ça fonctionnent. Ça montre que rien n'est bien préparé. Voilà pourquoi, sur cette question, nous avions proposé qu'il y ait des états généraux de la justice qui ont déjà existé. On doit revoir ces documents pour voir comment les actualiser. Le président de la République lui-même continue de l'affirmer que la justice de notre pays est malade.
Comment en est-on arrivé à, selon le gouvernement, 129 personnes tuées, dont 24 par balle dans cette prison?
Voilà pourquoi nous exigeons une commission d'enquête pour nous éclairer là-dessus. Nous avons senti qu'il y a eu une contradiction sur ce chiffre dans le même gouvernement. Si nous, on était au gouvernement, nous allions démissionner parce qu'on ne peut pas être contredit par notre membre du gouvernement en revoyant le bilan à la hausse, alors que l'autre s'était illustré à la précipitation en déclarant qu'il y a eu deux morts à 129, dont 24 par balle. C'est terrible pour le pays. C'est des choses qui doivent ternir l'image du pays. La RDC est candidate au Conseil des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous demandons la transparence dans ce qui est arrivé à la prison centrale de Makala, pour que tout le monde sache qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là.
Le gouvernement reconnaît qu'il n'y a eu que 24 personnes tuées par balle, mais le ministre de l'Intérieur parle de femmes violées, du matériel détruit, dans les dossiers des prisonniers. Qu'est-ce que vous en savez?
C'est cela qui nous inquiète. Tout ça, nous nous référons à la commission d'enquête réellement indépendante. Il faut nous dire qu'est-ce qui s'était passé réellement. Les femmes ont été effectivement violées. Le gouvernement même les reconnaît. Et comment 24 sont mortes par balle et qui avait donné l'ordre de tuer et aussi les autres ont été tués dans quelles conditions, comment dans ces lieux très dangereux on a pu amener des machettes et que les gens arrivent à mourir en masse et de cette manière-là.
C'était Jonas Tshiombela, président de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH-LC. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a rejeté hier soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités contre le gouvernement. Certains analystes parlent d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Dakar, Papalioune Sarr, rédacteur en chef e-radio.
C'était prévisible, d'autant plus que le pouvoir actuel n'a pas encore une majorité à l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire est toujours détenue par ceux qui étaient au pouvoir et maintenant dans l'opposition. Ce vote-là montre de plus en plus que l'opposition est là, toujours là, avec le groupe parlementaire Benobok-Yakar, malgré la décision actée par Macky Sall de dissoudre cette coalition-là qui a régné pendant 12 ans. Ce qui était prévisible, c'est que forcément la majorité parlementaire, et ce qui est paradoxal dans le champ politique sénégalais, c'est que la majorité parlementaire, avec cette configuration de l'Assemblée nationale, est toujours l'apanage de ceux qui sont dans l'opposition, allait bloquer cela, d'autant plus que dans la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, la commission des lois avait bloquer ce projet visant à dissoudre la HCCT et le CES, et la matérialisation de ce blocage a été une réalité lors de la séance extraordinaire qui s'est déroulée hier au Sénégal.
Le président Diomaye Faye, dans un communiqué, dit prendre acte du rejet du projet de révision constitutionnelle. L'opposition va plus loin en annonçant une motion de censure contre le gouvernement. Jusqu'où ira cette bataille?
Jusqu'au bout, d'autant plus que le président du groupe parlementaire Benobok-Yakar a annoncé la motion de censure qui a été déposée ce matin même par Abdoumbo. La sixième motion de censure avec une assemblée qui est différente vu la configuration avec les députés qui sont dans l'opposition, qui sont actuellement majoritaires. Mais est-ce que l'assemblée va survivre après le 12 septembre? Parce que le conseil constitutionnel a donné feu vert à Bassirou Diomaye Faye de dissoudre de l'Assemblée nationale. Donc c'est une course contre la montre. Les députés de l'Assemblée nationale ont jusqu'au 12 septembre pour voter la motion de censure. Est-ce que le délai qui leur est alloué...
Justement, d'aucuns parlent d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale après la date du 12 septembre. Est-ce que c'est envisageable et dans quelles circonstances cela peut se faire?
Oui, après l'aval du Conseil constitutionnel le 12 septembre qui coïncide avec la deuxième année de cette législature, la dissolution, ce sera tout simplement une force réglementaire car le le président de la République de faire tout cela. Et je pense que les députés sont déjà avertis. Ici, les entités politiques se forment. D'autres composantes politiques également sont en action pour former des alliances. Parce que dans la tête des acteurs politiques, on va vers des élections législatives extrêmement importantes. D'autant plus que le pouvoir va encore tester son poids sur la balance électorale.
Papa Lioune Sarr, rédacteur en chef e-radio, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La candidate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris est originaire de l'un des États américains les plus progressistes du pays, la Californie. Son travail en tant que procureur local, puis procureur général de l'État et sénatrice est au cœur de sa campagne présidentielle. Son adversaire, Donald Trump, affirme que le bilan de Harris en Californie montre qu'elle est trop progressiste pour le reste de l'Amérique. Depuis Los Angeles, Jenny Adulot nous explique ce que disent les Californiens. Et récit Yacouba Ouedraogo.
Les démocrates californiens ont voté pour l'une des leurs lors de la convention de leur parti. Gavin Newsom, gouverneur de la Californie.
En Californie, nous sommes fiers de voter pour la prochaine présidente, Kamala Harris, qui compte 482 voix.
Selon Harris, son expérience californienne montre qu'il est possible d'agir sur des préoccupations communes.
En tant que jeune procureur à Oakland, en Californie, j'ai défendu les femmes et les enfants contre les prédateurs qui les maltraitaient. En tant que procureur général de Californie, je me suis attaqué aux grandes banques. J'ai débloqué 20 milliards de dollars pour les familles de la classe moyenne confrontées à des saisies immobilières.
Son adversaire républicain, Donald Trump, affirme que l'expérience de Harris en Californie montre qu'elle va ruiner l'Amérique.
Her radical liberal agenda ruined San Francisco.
Son programme progressiste radical a ruiné San Francisco, ruiné la Californie lorsqu'elle était procureure générale. Elle a écrasé notre classe moyenne, démoli notre frontière, mis le monde en feu. Et maintenant, elle veut être promue au rang de tueuse d'emploi en chef.
La Californie possède l'une des législations les plus libérales du pays en matière de droits des travailleurs, d'environnement et de protection des communautés LGBTQ. Selon l'électeur David Miraz, les attaques contre Harris centrées sur la Californie relèvent de la politique politicienne.
Elle n'a pas seulement été procureure, elle n'a pas seulement été procureure générale. Elle a été aussi leader en matière de législation au sein du Sénat de l'État. C'est ce qu'ils essaient de faire, parce qu'ils essaient de la mettre à genoux. Ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parler de son bilan.
Le bilan de Harris en matière de restriction des droits sur les armes à feu en Californie est la raison pour laquelle Kayla Kelly soutient Trump.
Ce que je sais d'elle, c'est surtout ce qu'elle a fait en matière de contrôle des armes à feu en Californie et ce qu'elle a fait pour imposer toutes ces nouvelles règles et lois. Et évidemment, je suis opposé à tout ce qu'elle a fait passer.
Lily Smallheiser, artiste-interprète, affirme que les antécédents de Harris en matière de protection des libertés individuelles font d'elle la meilleure candidate.
Je pense que les droits reproductifs sont très, très importants et j'aimerais vraiment cela. De plus, je suis gay et je pense que cela fonctionne mieux si elle est présidente.
Mais Katie Wilmont, une autre électrice californienne, estime que Harris a échoué en matière d'immigration en Californie et à Washington.
Elle était censée être chargée de sécuriser notre frontière au tout début de la présidence de Biden et je ne sais pas si elle s'est déjà rendue sur place.
La Californie est un État solidement démocrate. Le parti devrait remporter le vote présidentiel et un siège ouvert au Sénat. L'impact le plus important pourrait résider dans la manière dont les campagnes de Harris et de Trump présentent son expérience californienne aux électeurs des autres États.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Mounezero à son micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.